Vous écoutez
RMC. En route pour Paris 2024.
Avec la team RMC.
Et comme tous les samedis, eh bien, on prend des nouvelles des membres de la team olympique RMC en route pour les Jeux, team olympique et paralympique, puisqu'après avoir fait connaissance les semaines précédentes avec Pascal Martineau-Lagarde, avec Khalil Chabouni, qui fait du breakdance, avec Johan Ndoye-Brouard, notre nageur, Mathilde Gros, notre cycliste sur piste, on va maintenant découvrir un autre athlète qui, lui, participera aux Jeux paralympiques, dont on célébrera demain le J-500. Cet athlète, c'est donc Rémi Boulet, spécialiste de para-kayak et qui visera l'or à l'été 2024. Il est en direct avec nous. Bonjour Rémi.
Bonjour la team RMC.
Bon, bah c'est toi qui fais partie de la team RMC. On est ravis de t'avoir d'ailleurs dans cette équipe. Et ça fait du bien, Rémi, j'imagine, pour toi qui ne va pas disputer les Jeux Olympiques, mais les Paralympiques, qu'on commence enfin à en parler. Parce que jusqu'à présent, ça a été surtout la part belle faite aux Jeux Olympiques. Mais les Jeux Paralympiques, voilà, on est à J-500. Ça y est, on va commencer à en parler.
Oui, carrément. Oui, bah, de toute façon, forcément, les Jeux Olympiques, c'est avant les Jeux Paralympiques, donc forcément, on en parle un petit peu plus au départ, et puis après, on parle un peu plus des Jeux Paralympiques, oui. Donc J-500, oui, comme vous l'avez dit, demain, oui.
Bon, ce serait pas plus mal, finalement, de faire les Jeux Paralympiques avant les Jeux Olympiques, Rémi, comme ça, au moins, il y aurait une plus grosse surface médiatique pour à vous accorder, quelque part.
Quelque part, oui, peut-être. Certainement, c'est vrai que si on faisait les Jeux Paralympiques avant les Jeux Olympiques, mais après, c'est encore changé, encore tout un système d'organisation, etc. Donc bon, non, aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on est sur... On est un peu depuis les Jeux de Londres de 2012, il y a eu une révolution et les mœurs qui ont changé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant aussi qui regardent et qui attendent les Jeux Paralympiques. En tout cas, c'est beaucoup plus médiatisé qu'avant. Donc Londres, grâce aux Jeux de Londres, il y a eu vraiment un gros regain des médias. Et à Tokyo, bon, forcément, il y avait le décalage horaire qui était très important. Mais donc là, à Paris, on est chez nous. Donc on espère que, en tout cas, la France, comme vous, RMC, que vous allez diffuser au maximum, oui.
Évidemment, on va vivre les Jeux Paralympiques comme on va vivre les Jeux Olympiques sur RMC, radio officielle des Jeux. Alors, Rémi, on va s'intéresser à toi. Ta spécialité, c'est donc le para-kayak, un sport que tu pratiques, je crois, qui se pratique de la même manière, en fait, que les valides, à savoir assis dans une embarcation et avec à peu près les mêmes règles que les valides, je me trompe, ou c'est les mêmes règles?
Ouais, c'est alors le 200 mètres. Donc là, pour les Jeux de Paris, il y aura plus de 200 mètres olympiques. Donc on sera voilà, ça a été annulé. Ils ont changé avec le kayak cross. Mais donc pour nous, sinon c'est les mêmes règles. C'est pas les mêmes bateaux. Donc c'est la même longueur de bateau. C'est le même poids que les olympiques. Juste nos bateaux sont un peu plus larges pour la stabilité, pour être un peu plus stable. Et puis, bah, comme avec les différents handicaps, par exemple, moi, j'ai une coque qui est faite sur mesure. Donc, je m'installe dans une coque. J'ai une ceinture qui vient me maintenir pour m'aider au niveau des abdos, parce que j'ai pas tous les abdos. Mais sinon, c'est vraiment la même règle. C'est le sabot, il tombe dans l'eau. On a 200 mètres à parcourir. C'est le premier qui passe la ligne qui a gagné. Et voilà. Après, nous, la particularité des handicaps, c'est qu'il y a 3 catégories. Donc, la mienne, c'est la catégorie la plus handicapée. Donc, c'est-à-dire que c'est juste les bras sans les jambes, étant donné que je suis paraplégique, donc je peux pas bouger mes jambes. Après, il y a la catégorie KL2, ça va être des gens qui vont avoir du tronc partiel, donc ça veut dire tronc complet, et avec un petit peu de bouge, ils peuvent bouger un petit peu leurs jambes, soit des doubles amputés par exemple, McGrath, le champion paralympique australien. Et après, il y a la catégorie KL3, où là, ça va être des gens qui vont être simple amputés ou mal marchants. Voilà.
C'est compliqué quand même de faire toutes ces catégories selon le handicap. C'est pour ça qu'il y a plein d'épreuves en fait aux Jeux Paralympiques.
Oui.
C'est parce que les handicaps évidemment ne sont pas les mêmes pour tout le monde et tu peux être un peu plus avantagé si ton handicap est moindre. Donc tu peux pas mettre tout le monde dans le même temps en quelque sorte.
Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Alors nous, le para-canoë, il y a beaucoup de disciplines maintenant qui viennent un petit peu copier le para-canoë. C'est que nous, ils ont fait le choix pour qu'il y ait que 3 catégories différentes et pas comme en natation où en natation, il peut avoir au moins 5, 6, 7 catégories différentes. Et puis 2 nageurs dans la même course, et ben ça va être 2 catégories différentes. Donc le public ne comprend pas trop les choses. Nous, il y a vraiment, ils refusent des gens. C'est-à-dire que si la personne, elle est pas assez handicapée ou elle est trop handicapée, et ben ils refusent et ils rentrent pas dans les cases. Voilà, ils ont vraiment essayé de d'être impartial. Et en plus de ça, par exemple, par rapport au paratennis, le paratennis, ils ont des fauteuils roulants. Par exemple, une personne qui est amputée va jouer contre un paraplégique parce que lui va avoir un fauteuil roulant adapté, donc il va être quasi, il va jouer debout. Et nous, c'est pas comme ça. Déjà, il n'y a pas le dopage, on va dire, technologique. Nos bateaux, il y a que deux marques de bateaux et les bateaux ont des cotes minimum à respecter. Il peut pas être moins large que 52 cm. Donc déjà, ce qui fait que déjà on part quand même sur un pied d'égalité. On a quasi tous les mêmes bateaux, donc au niveau du tirant d'eau, c'est quasi pareil.
On parlera justement dans quelques minutes de la technologie adaptée finalement aux athlètes qui sont handicapés et qui tentent de décrocher des médailles comme les athlètes valides. Alors c'est vrai que quand on voit une compétition de kayak, Rémi, on a l'impression que les jambes ne servent pas à grand chose chez les valides, mais en fait c'est une contre-vérité évidemment. Même si tu es assis, tu utilises beaucoup tes jambes, en tous les cas pour les valides, quand tu fais du kayak ou du canoë.
Oui. Ah bah vraiment, si je vous invite à aller par exemple sur YouTube, vous tapez le 200 mètres sprint olympique, vous verrez vraiment les jambes, c'est 40 à 50% de la puissance qui est donnée par les jambes en fait.
Mais c'est incroyable parce qu'on le voit pas ça en fait, parce que les jambes sont toujours cachées dans une compétition comme ça.
Elles sont souvent, ils sont cachés parce qu'il y a, vous savez, il y a une jupe pour éviter l'éclat d'eau qui rentre dans le bateau. Pour voilà, donc ils ont une jupe et ce qui fait qu'on voit pas les jambes. Mais en fait, quand on va tirer avec la main droite, donc quand on va planter la pagaie du côté droit, eh ben on va pousser sur la jambe gauche, donc en opposition et vice versa. Et quand on va tirer avec la jambe, enfin avec la main gauche, on va pousser sur la jambe droite. Donc ça, moi je peux pas le faire. Donc forcément, de base, je pourrais jamais aller aussi vite qu'une personne olympique valide. Déjà parce que mon bateau est plus large que le leur. Eux, ils font 36 cm en gros de moyenne de largeur. Moi, il fait 52. Et en plus de ça, moi j'ai la moitié de mon corps. Donc forcément, je peux pas rivaliser contre des personnes olympiques.
Alors Rémi, on va revenir sur ton histoire parce que c'est une histoire terrible, hein. L'usage de tes jambes, tu l'as perdu je crois en 2014, tu étais commando parachutiste, tu étais caporal-chef dans l'armée française, tu as participé à beaucoup d'opérations dans les endroits très chauds, Afghanistan, Mali, Niger, Tchad, mais c'est pas en opération que l'accident a eu lieu. Je sais pas si tu en parles comme ça ouvertement ou si tu préfères éviter le sujet, mais en tout cas voilà, tu t'es retrouvé un jour, du jour au lendemain, paraplégique. Et il a fallu faire des choix et trouver une autre façon de penser, une autre façon de se motiver dans la vie.
Oui, bien sûr. Alors oui, non, moi c'était pas. J'ai eu mon accident sur un saut en parachute, donc non, j'ai pas de soucis. Hein, j'en parle. En gros, moi, je rentrais de mission de l'opération Barkhane au Mali, et on m'a rappelé pour revenir sur une séance de saut opérationnel. Donc ça faisait une semaine que j'étais rentré en France. Je suis parti en séance de saut opérationnel et en gros, pour schématiser, pour faire très très court, mon parachute ne s'est pas ouvert. Donc nous on est chuteur opérationnel, donc moi je suis chuteur opérationnel, donc on saute à haute hauteur. Donc là je suis parti à un saut à 4000 et à 1000 mètres mon parachute ne s'ouvre pas comme il aurait dû, donc je fais une procédure de secours qui se passe pas non plus comme elle aurait dû se passer, ce qui fait que je termine en gros les deux voiles, la voile principale qui est sortie après l'action de mon parachute de secours, et en gros pour schématiser, mes deux voiles se sont emmêlées et je me suis retrouvé en torche. Donc j'ai fait une chute de 600 à 700 mètres à environ entre 40 et 50 km/h. Voilà. Ouais. Et donc après j'ai impacté le sol et donc à l'instant T j'étais paraplégique. J'ai mes collègues qui sont venus sur moi pour forcément porter assistance très rapidement, les gars de mon équipe, et à ce moment-là, bon bah le premier, un de mes collègues qui me tient la main me dit: est-ce que tu sens tes jambes, parce que moi j'ai jamais perdu connaissance, donc j'ai tout vécu, et c'est à ce moment-là où je lui dis bah non, je sens plus mes jambes, et donc j'ai compris tout de suite que j'étais paraplégique. Après j'étais héliporté sur l'hôpital de Gap, après ils ont vu que c'était trop gros pour eux, donc ils m'ont remis dans l'hélico et je suis parti au CHU de Grenoble, là où il y a eu Michael Schumacher. Après bah je me suis fait opérer et à la sortie de l'opération bah j'étais paraplégique et donc après bah s'ensuit un an de rééducation. Après j'ai été transféré sur l'hôpital militaire de Paris-Percy.
D'accord. Terrible, terrible comme ça de passer d'un instant à l'autre, d'un soldat d'élite à quelqu'un qui se retrouve dans une chaise roulante. J'imagine que l'adrénaline a toujours fait partie de ton métier hein, quand on va sur des terrains aussi chauds que l'Afghanistan ou le Mali, de se retrouver du jour au lendemain dans une chaise roulante. On pourrait se laisser aller, on pourrait en avoir assez de la vie finalement, se dire qu'il y a plus beaucoup d'intérêt. Mais toi, tu as réussi justement à te trouver un nouvel intérêt et à aller chercher cette adrénaline qui a toujours pimenté ta vie.
Bien sûr, c'est ça. C'est ben forcément du jour au lendemain, c'est pas prévu dans la tête. Le matin à 8h du matin, c'était le premier saut du matin. T'es avec les potes, tu montes dans l'avion, tu fais encore des blagues dans l'avion, tu rigoles, tu t'éclates. Et puis après, on va dire moins de 5 minutes après, tu te retrouves, t'es paraplégique. Et après s'ensuit, forcément, moi j'ai aucun bagage scolaire, donc s'ensuit, on se pose la question quand on est vraiment à l'hôpital et puis qu'on est confronté à soi-même le soir. Moi j'ai tout de suite voulu pas rebondir, mais en tout cas j'ai déjà tout de suite voulu enlever les médicaments pour parce qu'au départ j'avais quand même pas mal de médicaments pour m'aider à dormir parce que sinon j'arrivais pas à dormir, etc. Mais j'ai tout de suite voulu après enlever les médicaments. Au bout d'un mois je prenais plus aucun médicament parce que je voulais pas tomber dans vous savez le cercle vertueux des médicaments pour aider à dormir, etc. Et puis après souvent ça devient très compliqué de se sevrer, donc ça je l'ai enlevé un peu de moi-même. Et puis après le jour au bout de 3-4 mois où donc j'ai vécu 4 mois complètement allongé à l'IT comme on peut dire à l'hôpital, et après la première fois où j'ai pu me reprendre une douche seul assis, et ben à ce moment-là j'ai vu que j'avais perdu pas mal de poids, je suis passé de 88 kilos à 78 kilos, et c'est là où ça m'a fait un choc, et c'est là où je me suis dit Rémi, t'es paraplégique, pourquoi pas te lancer le défi des Jeux Paralympiques. Et s'avérait qu'on était donc en 2014-2015, je savais qu'il y avait les Jeux Paralympiques de Rio 2016, et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Et j'ai regardé un petit peu les sports qu'il y avait, et il s'avérait que le canoë-kayak, le para-canoë, était pour la première fois aux Jeux Paralympiques en 2016. Je me suis lancé le défi, je me suis dit pourquoi pas.
Mais t'en avais déjà fait quand tu étais valide du canoë et du kayak, ou alors tu as découvert complètement la discipline justement après ce terrible coup dur?
Non, justement, et donc quand je suis sorti, quand j'étais encore à l'hôpital même, à Percy, je me suis dit pour faire les Jeux Paralympiques de Rio 2016, il faut que je tente un sport où j'ai déjà des compétences, soit le tir, soit quelque chose où j'avais déjà des compétences, des armes à moi. Et il s'avérait que donc là, je vois le paracanoë 200 mètres course en ligne, et j'avais pratiqué le kayak pendant 7 ans quand j'étais jeune. Et en plus de ça, j'étais pas mauvais en course en ligne, en sprint. Donc c'est là, je me suis dit ça fait tilt.
Ça c'est mon truc. Dit, ça y est.
C'était une révélation. Je me suis dit le sport. Je savais qu'il fallait pas que je prenne un sport co parce que le temps de se faire intégrer dans l'équipe, etc. Ouais. Ça aurait été trop compliqué. Il fallait que je compte que sur moi-même. Donc je me suis dit sport individuel, c'était individuel. Ça, c'était pour la première fois aux Jeux Paralympiques. Je me suis dit il y a tout, tout s'aligne bien, et donc j'ai foncé, et donc j'ai commencé à sortir de l'hôpital les week-ends et à commencer à m'entraîner, et puis et j'ai trouvé le club à Orléans, moi étant d'Orléans, et puis tout s'est bien emboîté comme on peut dire, et puis après ça a enchaîné.
Et voilà, et avec une médaille de bronze donc décrochée à Tokyo lors des jeux, les derniers jeux des Jeux Paralympiques. Hein, attention, il faut toujours faire la différence. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Paralympiques. Et désormais, donc maintenant, l'ambition d'aller chercher encore un plus beau métal à Paris. Comment tu organises ta vie, Rémi? Alors, je sais que le canoë kayak, c'est pas une discipline qui fait vivre son homme complètement à l'année. Est-ce que tu as une activité professionnelle encore? Je crois que tu es encore membre de l'armée, hein?
Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai entre guillemets la chance et la malchance, on pourrait dire ça, mais moi je le prends plus comme une chance. En tout cas, j'ai été accidenté dans le cadre du travail. Ouais. Donc je suis en accident de travail. Donc aujourd'hui j'ai été réformé militaire. Donc on peut dire que moi l'impact de la réforme des retraites m'impacte pas, étant donné que je suis déjà retraité militaire. Donc voilà. Donc dans mon malheur. Et donc ça me permet quand même d'avoir un minimum de revenus. Et puis je suis donc à l'armée des champions, donc le bataillon de Joinville. Donc dès 2016, ils m'ont forcément intégré à l'armée des champions, et donc ça me permet d'avoir un contrat rémunéré pour m'entraîner tous les jours. Donc voilà un petit peu. Après moi, ma vie, le kayak, on on oriente aujourd'hui pour Paris. Mon objectif, il est vraiment d'aller chercher l'or à Paris. Donc, je me suis aussi entouré d'une équipe et je pense qu'à ça tous les jours. Aujourd'hui, maintenant, c'est vous voyez, ce matin, j'étais à la salle avec ma préparatrice physique d'Oralicia et donc j'ai fait ma séance de muscu. Cet après-midi, enfin ce soir, je vais être ma séance dans mon garage parce que là, c'est plus une séance de B1, donc sur l'ergomètre. Je vais faire une heure et demie à deux heures sur mon ergomètre. Enfin, donc aujourd'hui, c'est vraiment j'ai encore un an et demi pour moi, je dis à tenir parce que faut vraiment les tenir.
Ouais.
Je suis en moyenne, je suis moins de 10 jours par mois à la maison.
D'accord. Et j'ai l'impression que tu as bien récupéré tes muscles. J'ai vu une photo de toi. Le haut du corps, c'est incroyable. Hein, un Golgoth. Hein,
bah oui, on essaie de toute façon. Dans ma discipline, hein, comme on est vraiment que sur le haut du corps, ouais, et on avance le bateau qu'avec les bras, il faut que je développe ça. Je suis pas encore, je pense, vraiment.
Tu peux encore prendre un peu de muscle.
Il faut encore que je travaille.
Ouais.
Voilà, il me manque vraiment encore un peu de muscle, donc je travaille vraiment pour, donc à fond. L'objectif, il est pour donner un ordre d'idée. Moi, mon objectif serait d'arriver aux Jeux de Paris en poussant des barres en développé couché de 240 kilos. Ça serait déjà un très bon compromis.
Ah oui, ça serait pas mal. Effectivement. T'es à combien là pour l'instant?
Là, je suis en DC, je suis à 120.
120, d'accord. Bah on va te lancer un défi avec Vincent Moscato. On va voir s'il arrive à pousser aussi lourd que toi. Je suis pas sûr, hein, même s'il s'entraîne aussi régulièrement.
Ah ouais, avec plaisir.
Bon, eh ben Rémi, on va comme ça régulièrement prendre de tes nouvelles. Tu vas nous raconter ta préparation, tes doutes, tes espoirs durant cette année et demie qui nous sépare encore des Jeux Olympiques. En tout cas, on est ravis d'avoir fait ta connaissance, ravis de t'avoir dans la team RMC. Et je suis sûr qu'on va se régaler à connaître toutes tes histoires d'ici les Jeux Paralympiques. Donc dans maintenant 501 jours, ça va se rapprocher à grands pas. Merci Rémi en tout cas d'avoir
Merci
répondu à ces quelques questions. Et on se rappelle très bientôt justement pour prendre de tes nouvelles. Merci beaucoup.
Et bien avec grand plaisir, merci à tous. Bonjour à tout le plateau et puis à très vite.
Bonne préparation. Rémi Boulet, champion de para-kayak, ancien commando parachutiste, un drôle de bonhomme. Et si vous le voyez, allez sur internet, vous allez voir. C'est un beau bébé, un beau bébé Rémi Boulet. Voilà donc pour notre rendez-vous avec les personnes de la team olympique. Les Jeux paralympiques et le monde aérien, ce sont deux mondes évidemment que connaît bien Rémi Boulet et qui peuvent s'associer. La preuve justement avec ce partenariat signé entre l'Agence nationale du sport et Airbus. L'objectif, eh bien, c'est d'améliorer les équipements des athlètes grâce aux capacités du géant aéronautique. C'est un reportage de Valentin Jamin.
Oui, dans le protospace d'Airbus, l'atelier où sont habituellement pensées les innovations pour les avions, un ingénieur scanne une prothèse pour la faire apparaître sur son ordinateur. C'est celle d'Alexis Anquincan, paratriathlète amputé de la jambe droite. Il améliore son équipement grâce au constructeur aéronautique.
On a deux axes de travail principaux sur cette prothèse. On est sur une recherche technique. On est un sport avec de la technicité de vélo, etc., l'aérodynamisme, etc. Jusqu'à aujourd'hui, je travaillais principalement avec mon prothésiste dans son petit bureau, avec ses outils. On se limite à aucune réflexion. C'est des gains qui peuvent pour le grand public être marginaux, mais gagner peut-être 10-15 secondes par-ci par-là, c'est pas marginal du tout.
Le champion paralympique en 2021 veut garder quelques secrets pour surprendre la concurrence. Cyril Mazur, chargé du développement du paratriathlon, en dit un peu plus sur ces améliorations.
On travaille sur tous les aspects qu'on a identifiés qui peuvent se traduire pour des gains de puissance en vélo. Ça peut être des aspects aérodynamiques, des aspects mécaniques, des aspects de poids de matériel, modifier des pièces, de les revoir dans leur géométrie, des choses qui fonctionnent bien mais qui ont été faites de manière artisanale, qui peuvent être optimisées.
Autre exemple, Elur Alberdi en para-aviron. Elle ne peut plus bouger son poignet après une triple fracture ouverte et elle veut une orthèse spécifique pour pouvoir tenir sa rame. En tout, Airbus accompagne 19 projets, offre ses connaissances mais aussi des moyens techniques, des fraiseuses ou des imprimantes 3D. Le tout piloté par l'ingénieur Christophe Debar, lui-même amputé et équipé d'une prothèse.
On utilise exactement les mêmes compétences, les mêmes moyens, mais à des échelles différentes. Là, on a besoin de gens qui font de la structure, du calcul, de l'aérodynamique. Tout ça, c'est ce qu'on utilise pour les avions. On essaye d'utiliser les mêmes choses. Par exemple, le composite, on va utiliser des chutes de la production des A350 pour fabriquer des prototypes performants pour les athlètes de haut niveau.
Christophe Debar a d'ailleurs initié cette collaboration avec l'ANS. Officialisée en mars, elle dure en réalité depuis mai 2022 et s'appuie sur une toute première expérience avec le joueur de para-badminton David Toupé. C'était il y a 6 ans déjà.
Alors moi, à la base, je suis venu voir Airbus parce que j'étais à la recherche de partenariat, de sponsoring. Puis on m'a mis en relation avec Christophe parce que le Protospace pouvait m'apporter une amélioration sur le fauteuil. Et puis l'idée folle hein, de partir sur carrément la conception d'un fauteuil entier.
Un premier projet qui en a donc inspiré d'autres pour garder un temps d'avance sur les concurrents. Et avec maintenant une question principale, quand dévoiler ces innovations en compétition? Car il faut trouver l'équilibre entre surprendre ses adversaires au bon moment, mais aussi tester et s'assurer de bien respecter les réglementations internationales.
Christophe, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Voilà, reportage de Valentin Jamin et on aura l'occasion évidemment tout au long de cette préparation vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de découvrir comme ça les applications du monde de l'industrie pour les sportifs de haut niveau. On va maintenant aller faire un petit tour au tennis hein, parce qu'on est très proche de la victoire pour l'équipe de France. Il y a même, me semble-t-il, une balle de match. Non, pas encore une balle de match.
Pas encore, Christophe.
Non, pas encore.
5-4 pour Caroline Garcia dans ce tie-break de tous les dangers quand même, parce qu'elle est pas sereine du tout, la cinquième joueuse mondiale. Elle a fait beaucoup de fautes et une joueuse britannique en face qui prend sa chance, modeste 117e joueuse mondiale. Et bien elle est là, elle essaye de se battre avec l'appui du public du côté de Coventry, et on est à deux points quand même de la qualif si Caroline Garcia maîtrise bien ses deux derniers points. Mais c'est difficile, c'est clairement pas le meilleur match de la saison de la Française qui mène 6-1, et on est dans le tie-break du deuxième.
Merci Anthony. Le tennis est également à Monte Carlo que ça se passe tout au long de la semaine et ce week-end avec les demi-finales. La première a débuté il y a quelques minutes. Eric Salio est sur le rocher. Évidemment, il a mis ses belles lunettes. Il est en short pour assister à cette demi-finale qui oppose un Américain à un Russe. Rublev opposé à Fritz. Salut Eric.
Salut Christophe. Écoute, il y a des nuages. Il y a des nuages oui, autour du central de Monte Carlo. On n'est pas forcément serein sur le déroulement de cette journée, donc on va croiser les doigts. C'est dommage parce qu'on a eu vraiment une météo exceptionnelle depuis le début de la semaine, donc on va espérer que Rublev et Fritz fassent vite, mais ce sont deux garçons qui sont membres du top 10, hein, Christophe, je sais que tu le découvres, mais...
Non, mais je le découvre pas, je disais ce matin qu'ils étaient... Mais il n'y a aucun demi-finaliste qui est dans le top 5 quand même aussi, d'un autre côté.
Voilà, c'est ça.
C'est quand même assez rare à Monaco.
6-8-9-10.
Ouais.
Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu le forfait de Nadal, on a eu la méforme liée à peut-être une petite blessure de Novak Djokovic. Et puis Daniil Medvedev a sauté. Stefano Tsitsipas, lui aussi, a des soucis à l'épaule. Il a été inexistant hier face à Fritz. Voilà pourquoi l'Américain donc est en capacité, pourquoi pas, de rallier la finale ici sur le Rocher, ce qui serait quand même extraordinaire. Parce que là, je suis obligé de vous poser la colle. Un Américain en finale de Monte Carlo, c'est arrivé, bien sûr. Mais la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 92.
92.
C'était Aaron Krikstein qui avait perdu sur Thomas Muster. Donc, vous voyez, ce serait vraiment un événement historique pour le tennis américain. Et pour l'instant, il y a trois jeux
Agassi
à deux.
Agassi, Sampras sont jamais allés.
Non, ils étaient pas bons. Ils venaient rarement. Ils étaient pas bons sur la terre monégasque. Ils aimaient pas trop Roland. Donc, ils arrivaient juste pour le rendez-vous de la Porte d'Auteuil. Bon, Agassi avec beaucoup de bonheur, hein. Sampras a jamais pu atteindre la finale à Paris. Mais non, c'était pas une destination très prisée pour les joueurs américains. Donc, c'est pour ça, cette stat, je suis un peu tombé de ma chaise.
Ouais, incroyable.
Aaron Krikstein, 92. Et Fritz, qui se bat. Il a beaucoup de caractère, cet Américain. Avec une maman, il a de quoi, parce que sa maman a été quart de finaliste à Roland-Garros sous un autre nom. Et Fritz, donc, pour l'instant, est au coude à coude avec Rublev. 3-2 pour le Russe, mais balle de débreak pour l'Américain. Et puis la deuxième demi-finale opposera donc Yannick Sinner, l'Italien, au Danois Holger Rune.
On a le droit de dire qu'il est russe ou alors il concourt sous bannière neutre, Rublev?
Alors, sur le tableau d'affichage, effectivement, non, mais tu fais bien de poser la question. Sous le tableau d'affichage, il n'a pas de drapeau à côté de son nom.
Ouais. Alors, on rappelle que Rublev avait pris position contre la guerre en Ukraine au tout début de
c'était l'un des rares vraiment exactement. De manière ouverte, notamment quand après une victoire on leur offre un feutre pour marquer un petit mot sur l'écran de la caméra. Il a dit no war. Oui, il a toujours été très clair là-dessus. Malheureusement, c'est un avis peut-être personnel, mais en tout cas la bonne nouvelle pour les Russes, c'est qu'ils pourront jouer Wimbledon cette année, ce qui n'a pas été le cas l'an passé.
Très bien, on te retrouve dans quelques minutes, Eric, et tout au long de l'après-midi, donc pour ces demi-finales, si évidemment la météo ne vient pas gâcher tout ça. Il est 14h33, on revient dans un instant, on va continuer notre magazine En route pour Paris 2024, et on va découvrir notamment un haltérophile français qui est tout simplement champion du monde. Morgan Murray l'a rencontré, on en parle dans un instant. On revient à notre magazine olympique et on va s'intéresser à l'haltérophilie dont les championnats d'Europe s'ouvrent aujourd'hui à Erevan en Arménie. Une étape importante sur le chemin de la qualification olympique. Et la meilleure chance française en haltérophilie s'appelle Romain Imadouchen. Il a 27 ans, il est champion du monde. Valentin Jamin et Morgan Mori ont suivi le colosse à l'entraînement cette semaine avant son départ pour l'Arménie. Reportage.
Le métal claque sur le sol de la salle d'haltérophilie de l'INSEP. Romain Imadouchen répète son arraché, l'un des deux mouvements de l'haltérophilie avec l'épaulé jeté. L'Hercule français enchaîne les tonnes de fonte. Sacré champion du monde de l'épaulé jeté l'an passé, il doit progresser à l'arraché pour envisager le titre olympique dans un an à Paris.
J'ai longtemps bagarré avec l'arraché pour pouvoir peaufiner justement ces petits détails techniques. Et donc l'idée, c'est de concrétiser aujourd'hui. Ça commence à monter en puissance pour les Jeux. Et si on vise le titre suprême à Paris, il faudra passer par l'arraché, forcément.
Le plan Paris 2024 du Dunkerque a été écrit depuis presque 10 ans. Avec son ancien entraîneur, il a balisé les étapes jusqu'au rendez-vous du 9 août 2024, date des moins de 89 kilos. Il estime qu'il faudra soulever 398 kilos pour entendre la Marseillaise, 20 de plus que son record.
C'était ici même, donc j'avais mon premier entraîneur, Samuel Suvens. On a discuté, on a fait des plans de carrière et ça a toujours été Paris en ligne de mire. Je savais qu'en haltéro, on sait qu'à 28 ans, on arrive dans la forme. Et l'idée, c'était de préparer ces Jeux depuis le début.
Dernier titre français au JO, 1936, Louis Austin. La France cherche un champion de la fonte, c'est peut-être Romain Imadouchen, l'un de ses entraîneurs, Franz Félicité.
Romain, ce qui est bien, c'est qu'il a une grosse ambition, qu'il l'assume tout à fait. Et puis c'est intéressant, quoi, parce que lui, il fait des compétitions pour gagner. Donc, on va le pousser pour gagner.
Europe cette semaine, les mondiaux en Arabie Saoudite au mois de septembre. La voie jusqu'à Paris est toute tracée. Il n'y a qu'à suivre le plan.
Reportage de Morgan Mori. Les championnats d'Europe, c'est à partir d'aujourd'hui à Erevan, en Arménie. Les haltérophiles qui ne sont pas les seuls à disputer les championnats d'Europe. Les gymnastes sont également de la partie. Ça se passe à Antalya, en Turquie, où l'on espère évidemment l'or. Mais on a déjà l'or, Arnaud Valadon, puisque Colline de Villard a remporté l'épreuve de saut il y a quelques minutes.
Hein. Oui, c'était il y a même 30 minutes. On vous l'a annoncé déjà dans cette page olympique sur RMC. Nouveau titre européen pour Colline de Villard. Elle était en tête à l'issue des qualifications. C'est l'épreuve de saut. Deuxième titre européen pour elle, 6 ans après le premier. On sait qu'on démarre très jeune en gym, mais c'est dur de durer. Ouais. Et elle avait fait le bronze l'an dernier au niveau mondial. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Les Françaises ont terminé 6e au classement par équipe à l'issue des qualifications. Marine Boyer, qui est la spécialiste de la poutre, elle avait fait 4e à Rio en 2016, 17e seulement. Pas de finale, évidemment. Chez les hommes, la France était 7e au classement par équipe et en individuel. On avait deux Français en finale du sol avec une 5e place pour Benjamin Hausberger. Pareil, c'était il y a moins d'une heure. Et une 7e place pour Lucas Desanges. Et demain, on aura au bar parallèle en finale, c'est-à-dire dans les 8 meilleurs, Cameron Lee Bernard, qui avait fait 7e après les qualifications. Pas d'enjeu pour Paris 2024, puisque tout se décidera lors des mondiaux à Anvers fin septembre.
Très bien. Un petit mot concernant Clarisse Agbenienou, dont on suit depuis plusieurs semaines les pérégrinations et les démêlés avec sa fédération concernant l'usage de son kimono. La semaine dernière, elle s'est finalement rangée à la décision de la Fédé. Mais l'âge de guerre n'est pas enterré pour autant, hein, pas du tout même. Hein.
Je n'ai plus rien à leur dire. Voilà ce que la championne a déclaré à l'AFP mercredi à propos des dirigeants de la fédération. Agbenienou a renoncé à porter le kimono de son sponsor personnel Mizuno et donc portera un kimono Adidas dans un mois au championnat du monde à Doha. La fédération avait aussi pris le temps de rapatrier Teddy Riner, qui lui portait un kimono de sa propre marque. Mais c'est vrai que l'affaire laissera une marque durable entre Agbenienou et Stéphane Nomis, le président de la Fédération française.
Autre feuilleton dont on parle depuis quelques semaines, Arnaud, celui de la réintégration des athlètes russes, notamment en escrime. Mais bon, rien n'est encore fait. Hein.
Non, il y a eu un décret du gouvernement ukrainien qui oblige désormais les équipes nationales ukrainiennes à systématiquement se retirer de toutes les compétitions où des Russes ou Bélarusses seraient présents. C'est vraiment un décret officiel. Et enfin, cette information pour terminer. Le président du Comité international paralympique a déclaré auprès du site Inside the Games que son comité pourrait très bien avoir une position différente de celle du CIO sur la participation des Russes et Biélorusses à Paris 2024. Ce qui peut vouloir dire que, eh bien, les Russes pourraient disputer les Jeux paralympiques. Car souvenez-vous, il y a un an, pour les Jeux d'hiver, le comité paralympique ne voulait pas exclure à la base la Russie et la Biélorussie, alors que l'invasion de l'Ukraine avait débuté. Et face aux menaces de boycott d'autres nations, le CIP avait dû céder et exclure les deux pays.
D'accord. Il est de quelle nationalité, le président?
Il est anglais.
C'est un anglais. Ah, bah, dis donc, les anglais.
Un britannique.
Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. On a été complet. L'actualité olympique, évidemment, sur RMC, c'est tous les samedis, en début d'après-midi, dans l'intégral sport. On y reviendra la semaine prochaine avec une autre membre de notre team RMC. On sera notamment, on l'espère, avec Romain Dicot, championne olympique de judo par équipe et championne médaillée de bronze en individuel.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
15h01 sur RMC, les directs, c'est parti. C'est déjà parti depuis un bon moment pour le tennis. On va y retourner dans un instant. Il y a du foot et du rugby qui viennent de se mêler à la fête. On va commencer par le foot parce qu'on n'a pas encore été salué Patrick Meller, qui est à Metz, à Saint-Symphorien, cet après-midi pour un match capital entre Metz et les Girondins de Bordeaux. Salut Patrick, grosse fête à Saint-Symphorien. Le stade est plein ou quasi, hein, cet après-midi.
Salut Christophe. En effet, très très grosse et très très belle ambiance ici à Saint-Symphorien. Du soleil et beaucoup de monde dans les tribunes. 24 à 25 000 personnes sont attendues pour effectivement ce match capital, notamment côté Messin. C'est un peu acquis tout double et c'est clairement décisif pour cette équipe qui, au moment où on parle, est quatrième avec 4 points de retard sur Bordeaux, son adversaire du jour. Ça veut dire qu'en cas de succès, les Messins pourraient revenir à 1 point des Girondins. En revanche, en cas de défaite par exemple, eh bien ils auraient 7 longueurs de retard sur les hommes de David Guillon à 7 journées de la fin. Bon, tout ça c'est évidemment de la prospective et de la projection, mais c'est vrai qu'il y a une grosse importance bien évidemment dans cette rencontre entre les deux.
On rappelle le règlement justement pour l'accession à la Ligue 1 la saison prochaine, Patrick.
Eh ben les deux premiers sont directement vont directement monter en Ligue 1.
Il
n'y
a
pas
plus
de
barrage comme avant, hein, parce qu'on rappelle que cette année il y en a beaucoup qui vont descendre. Hein.
Exactement. Donc, changement de format et du coup deux équipes qui montent directement et pas de plan B ni de seconde chance, si je puis dire, par l'intermédiaire d'éventuels barrages.
Donc l'objectif c'est d'être dans les deux. Autrement, il faudra attendre la saison prochaine.
Exactement.
Très bien. Bon, vu le match avec toi, match capital donc entre Metz et Bordeaux. Les autres matchs, ce sera à partir de 19h et ce sera à suivre dans le multiplex de Benoît Boutron. Le rugby, c'est parti également. On est avec Julien Richard qui se trouve donc à Bollard pour non pas du foot mais du rugby, et avec Lénaïque Corson qui est avec moi en studio pour analyser ce qui se passe. Alors on va avoir du mal parce qu'il y a une espèce de plan très large. On n'a pas du tout les détails. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, Julien, c'est parti depuis 2 minutes, 0-0. L'occasion pour l'UBB d'ouvrir le score dans cette partie, hein, parce qu'il y a une pénalité que va tenter Maxime Lucu qui est excentré côté droit, mais quasiment elle est à 45 bons mètres. Elle est assez lointaine, cette pénalité. Donc, pourquoi tu ne vois et que les téléspectateurs ne voient qu'un grand écran, c'est qu'il y a un plan large. Il y a un débrayage de l'équipe de production audiovisuelle qui réalise les images de la rencontre, de toutes les rencontres de Top 14. D'une heure jusqu'à 14h, jusqu'à 15h14, ce qui fait que jusqu'à 15h14, il y aura uniquement le plan large et après tout redeviendra normal. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y aura pas d'arbitrage vidéo pendant les 14 premières minutes de ce match. Et oui, alors on a quand même placé les 4e et 5e arbitres de la rencontre sur chaque embut pour éventuellement une décision litigieuse. Mais voilà, pendant les 14 premières minutes, il n'y aura pas de possibilité de recours à l'arbitrage vidéo. Et pendant ce temps-là, le score est ouvert par Maxime Lucu. Donc pénalité réussi par les Bordelais. C'était sur une mêlée, la première du match. Les Franciliens sanctionnés sur la première mêlée et directement sanctionnés également au score, puisque l'UBB mène 3-0 sur la pelouse de Bollard, donc à domicile sur la pelouse de l'UB, du Racing, pardon, on va dire ça comme ça.
L'arbitrage vidéo, les rugbymen sont plus habitués, les Naïgs, justement. Ils vont faire à l'ancienne. Est-ce que vous, justement, dans le rugby féminin, dans le championnat anglais, vous avez de l'arbitrage vidéo, ou alors c'est réservé uniquement aux garçons?
Alors, pour certains matchs, effectivement, on fait appel à la TMO. Quand on est, par exemple, au Twickenham Stoop, on a les infrastructures qui nous permettent de faire appel à la vidéo. Cependant, moi, j'ai eu un plaquage très haut. Hein, j'ai fait un tête contre tête contre une joueuse des Wasps et les infrastructures ne nous permettaient pas de revenir sur la vidéo.
C'est toi qui as été victime ou c'est toi qui as mis ton
J'ai été la victime. Au sol, mais l'arbitre n'a rien vu et je suis sortie évidemment du terrain immédiatement. Et je m'attendais au moins à un carton rouge ou jaune pour la joueuse des Wasps, ou au moins une pénalité pour mon équipe, mais on n'a pas pu faire appel à la vidéo.
Dans les matchs internationaux, en revanche,
oui, par contre, avec l'équipe de France, évidemment, on a les mêmes facilités que les joueurs. Exactement. Et on revient sur la vidéo. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, hein, de de visionner nos matchs avec un plan très large qui nous permet justement de voir peut-être des passes qui devraient aller plus facilement sur les extérieurs. Donc voilà, c'est comme si on faisait une analyse de match
à l'ancienne. Alors en plus, le caméraman est obligé de cadrer. Il n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est un plan fixe. Il est là, bloqué. Là, il nous donne le tournis. Je vais avoir envie de vomir s'il continue comme ça. Hein. Dis-lui, Julien, pour éviter de trop bouger la caméra, qu'il nous fasse un plan large et on verra plus tard.
Allez, il y en a encore pour 10 minutes. 10 minutes à tenir. T'inquiète pas, Christophe. Okay. Ça va bien se passer. 3-0 pour l'UBB.
J'espère que j'ai pas prévu mon sac. Hein, bon. Enfin bref. 3-0 donc pour l'UBB sur la pelouse de Bollaert à Lens pour ce match face au Racing. Patrick, c'est pas là. Il me semble que foot aussi, là, on a manque de caméra, non ?
Ouais,
oui, c'est valable aussi pour le foot, hein, et même horaire.
D'accord, ok. Ah, on me dit qu'il y a une balle de match pour Caroline Garcia. Et là, cette fois-ci, ça devrait le faire, Anthony, parce qu'elle en a quelques-unes. Hein.
Elle a un petit peu d'avance, effectivement. La Française mène 5 jeux à 1 dans ce troisième set décisif et 40-30 sur son service, même si c'est difficile en termes de jeu. Et le service est gagnant, ça y est, c'est fait. C'est fait, la France se qualifie pour la phase finale de cette Billie Jean King Cup qui aura lieu en novembre au bout d'un match très très stressant avec un niveau de jeu vraiment fluctuant. Caroline Garcia, numéro 1 française, qualifie donc la France en 3-7, 6-1, 6-7, 6-1 à nouveau. Grand soulagement. Elle enlace Julien Benneteau, le capitaine de l'équipe de France. Les Bleus verront donc la phase finale de cette Billie Jean King Cup en novembre prochain.
Eh ben voilà une bonne nouvelle. Merci Anthony, tu peux rentrer, hein, c'est fini. Tu peux rentrer de Coventry. Magnifique, magnifique, hein, Coventry, hein, Lina Higa. Tu connais Coventry un peu, non ?
Très peu, parce que du coup, en ayant joué que 6 semaines chez les Wasps, on a quand même eu notre stage de début de saison à Coventry. Et pour rappel, les joueurs étaient partis déjà depuis 2-3 ans, voire même 4 ans. La région de Londres pour partir à Coventry. Ça aurait dû être le cas pour les féminines également, de partir la saison prochaine. Malheureusement, l'équipe féminine va descendre dans la division inférieure. Et voilà, le club d'ailleurs s'est retrouvé avec un endettement, on l'a dit, de 120 millions d'euros, notamment dû à ce déménagement à plus de 2h30 de Londres.
Exactement, le rugby anglais qui se trouve un peu dans la mouise, et ça se voit d'ailleurs en termes de résultats sur le terrain. Le tennis, c'est aussi à Monte Carlo, où là, il n'y a pas de problème d'argent, hein, Eric, rassure-moi, tout va bien. Au Monte Carlo Country Club,
J'ai vu le prix du menu qui est proposé juste en dessous de moi, là, sur la fameuse terrasse. Où parfois ça faisait beaucoup de bruit,
le bruit des fourchettes,
les joueurs se plaignaient. Maintenant ils ont un peu fermé le petit restaurant et j'ai vu le prix, c'était pas très très accessible. Mais bon, ça a l'air très bon, hein. Ça a l'air très bon.
C'est-à-dire qu'avec avec ton forfait repas d'RMC,
même pas le café, je crois. En tout cas, sur le central, avec une luminosité un petit peu inquiétante, il y a même eu des parapluies qui sont ouverts il y a quelques minutes. Eh bien, c'est Taylor Fritz qui mène une manche à zéro, Christophe. Et j'avoue que c'est une belle surprise de voir cet Américain, s'exprimer sur la terre battue européenne. 7-5 pour Fritz, mais 2-0 Rublev dans la deuxième manche. Et j'étais en train de regarder le parcours d'Aaron Krikstein en 92, puisque je vous le rappelle, hein, ça fait 31 ans qu'on n'a pas vu un Américain en finale de ce tournoi monégasque.
Et il y avait qui en 92 face à lui?
Il avait battu Becker quand même. Ah, il avait battu Becker avant de perdre.
En plus, qui habitait en principauté à l'époque.
Qui était numéro 3 mondial à l'époque. Ouais. Et avant de perdre en finale donc contre Thomas Muster, qui n'était pas
la brute autrichienne.
Oui, mais qui était 37 mondial à l'époque. Il avait chuté un peu.
D'accord.
C'était pas ses meilleures années. Mais ça avait été une finale en 3-7. Donc voilà. Est-ce que Taylor Fritz va rejoindre Krikstein? C'est loin d'être fait. Hein, c'est loin d'être fait puisque Rublev a le break dans le deuxième. Et Rublev, c'est un petit nerveux. Son problème, c'est la gestion des émotions. Et tant qu'il n'arrivera pas à se calmer, je ne lui prédis pas un avenir radieux dans les grandes compétitions.
Compliqué donc pour Rublev, mené à 1-7-0. Il mène 2 jeux à 0 dans la deuxième manche. À tout à l'heure, Eric. Patrick Meller pour le foot, la Ligue 2 et ce match important entre Metz et Bordeaux. 0-0 pour l'instant, Patrick.
0-0 en effet après 10 minutes de jeu. Il y a un coup franc intéressant potentiellement pour les joueurs du FC Metz qui font un bon début de match, même s'il y a eu une petite alerte bordelaise tout à l'heure avec cette frappe de Mwanga dès la 4ème minute. Mais pour le reste, ce sont plutôt les Messins que l'on voit avec ce coup franc qui ne va rien donner dans un premier temps. avant la tentative de frappe en demi-volée dans un deuxième temps de Ablaye Diallo. Ça va sortir en sortie de but, mais pour l'instant cette affiche tient ses promesses. Il y a vraiment une belle ambiance et beaucoup de monde, on l'a dit, dans les travées de ce stade Saint-Symphorien, et puis une belle intensité entre deux équipes, faut le préciser, qui sont quand même sur de belles dynamiques. 17 matchs sans défaite pour Metz, même si dans le contenu sur les 2-3 dernières rencontres c'était un petit peu sur le recouloir, si je puis dire. Et côté bordelais, c'est tout simplement 3 succès consécutifs avec à la clé 3 clean sheets, 3 matchs sans le moindre but encaissé. C'est vous dire si ces deux équipes sont à un niveau de performance assez intéressant. 11 minutes de jeu à présent et toujours ce score de 0-0 dans un début de match plutôt enthousiasmant.
On rappelle le classement de cette Ligue 2 après donc 30 journées. Le Havre est toujours en tête avec 61 points, suit Bordeaux avec 56 points. Deux équipes avec 52 points, c'est Sochaux et Metz, et puis un peu plus loin, Bastia avec 48 points en 5e position et Grenoble avec 47 points et 6e. Voilà pour la Ligue 2. Allez, on va retourner à Lens, ou Lens qui va s'enthousiasmer. Je vous rappelle que le match du RC Lens aura lieu au Parc des Princes ce soir avec une opération spéciale, puisque l'intégrale foot avec Thibaut Giangrand sera en direct du parc dès 20h pour suivre cette rencontre entre le leader et son dauphin. Lens qui évidemment fait la fête quand même au rugbyman cet après-midi pour ce match entre le Racing et l'Union Bordeaux-Bègles. Julien Richard, où en est-on dans cette rencontre?
Oui, ce ne sont pas des sang et or, mais des ciels et blancs sur la pelouse, effectivement.
Il y a moins de monde que pour le foot.
Il y a un peu moins de monde que pour le foot. Alors, la tribune Marac est assez pleine. Il y a aussi pas mal de comme on disait, terre de rugby. Il y a pas mal d'écoles de rugby et tout ça qui sont venues. Donc, il y a des supporters aussi qui ont fait le déplacement. On voit pas mal de ciels et blancs, mais évidemment, on n'est pas, on est loin d'être plein. Il y a entre 10 et 15 000, je dirais. On aura les chiffres un peu plus tard pour cette rencontre. Où donc les Bordelot-Bègles, l'UBB mène 3-0 hein, sur la pelouse donc du Racing, sur cette pelouse du Stade Bollard. 3-0, une pénalité de Lucu, et là il y a un coup de pied qui est sorti directement en touche, donc on va revenir sur une touche au niveau du coup de pied bordelais, très légèrement à l'intérieur de la moitié de terrain. Alors on a assisté d'abord un jeu de ping-pong, un échange de coups de pied, et puis là on a vu la première combinaison du Racing 92. Malheureusement il y a eu une passe en avant pour Abossi, mais sinon c'était plutôt pas mal joué, l'un des premiers vrais beaux ballons d'attaque pour le Racing 92 avec la bonne prise de balle des joueurs franciliens. Ils sont menés 3-0 sur leur pelouse. On joue depuis 12 minutes à peine dans cette première période. Le jeu plein axe, on est très légèrement dans la moitié de terrain de l'UBB, énorme défense, le ballon est tombé mais en arrière, on va essayer de se relancer, c'est un peu brouillon pour l'instant ce qui se passe ici. L'UBB qui mène 3-0 face au Racing 92.
Plus qu'une minute trente avant que le calvaire du caméraman Dominique s'achève. Hein. Après, il va pouvoir retrouver ses petits camarades et il sera plus obligé de zoomer, de dézoomer, de partir dans tous les sens pour essayer de nous faire vivre ce match. Ton impression, Lénaïque, après ce premier quart d'heure dans ce match, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu brouillon. Hein. Il y a pas...
Oui, on voit que les deux équipes s'envoient un petit peu la patate chaude. On voit que dans l'organisation collective, c'est un petit peu brouillon. Peut-être sûrement parce que ça fait 3 semaines que le championnat a été coupé. Et voilà, le temps de retrouver le rythme, les repères collectifs, que pour l'instant, des deux côtés, on a du mal à voir.
Et je vous rappelle les autres matchs qu'on va suivre tout au long de ce week-end, avec à 17h, 4 rencontres. Montpellier sera opposé à Castres. Le RC Toulon affrontera Perpignan, c'est une sorte de derby méditerranéen. Pau jouera face à Clermont et Brive recevra le Stade Français ce soir à 21h05, La Rochelle Bayonne, et demain à 21h05 le Stade Toulousain opposé au Loup. Il est 15h14 sur RMC, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos directs. Donc 0-0 entre Metz et Bordeaux, 3-0 pour l'UBB sur la pelouse de Bollard face au Racing. Roublev qui est mené 1-7-0 par Fritz à Monte-Carlo. Et voilà pour l'essentiel, on revient dans un instant, à tout de suite. RMC. On va aller faire un petit tour au tennis, les demi-finales du tournoi de Monte-Carlo. On attend toujours la pluie, mais elle n'arrive pas. Eric Salio et Fritz qui mènent donc un 7-0, mais qui est un peu plus bousculé dans la deuxième manche par Rublev. Hein, Eric.
Oui, il y a clairement une réaction d'André Rublev, donc qui a mal vécu effectivement la perte de la première manche, 7 jeux à 5, alors qu'il a fait le break d'entrée. On se disait en plus que les conditions de jeu assez lentes, puisque... Je vous l'ai dit, il y a plus du tout de soleil, donc ça allait quand même lui convenir, mais pas du tout. Il se fait agresser par Taylor Fritz, donc un 7-0 pour l'Américain, mais 3-1 dans le deuxième set pour André Rublev. 3-1, Fritz est au service, il y a même
15-30, on pourrait bien avoir une troisième manche, et ça c'est peut-être pas une bonne nouvelle, parce que si jamais la pluie tombe, ça pourrait perturber le déroulement de la journée, puisqu'il y a une deuxième demi-finale bien sûr à jouer tout à l'heure entre Holger Rune et Yannick Sinner. Alors vous allez me dire, ils ont l'éclairage. C'est vrai qu'on a fini à 23h. C'était quand? C'était jeudi, avec un match magnifique entre Medvedev et Zverev. Mais quand même, pour les spectateurs, c'est pas très confortable quand il fait froid et qu'il pleut.
Effectivement, on n'a pas l'habitude de ce genre de conditions, cher ami, en Principauté de Monaco. Hein, quand même, la pluie, ça n'arrive que très rarement.
Cela dit, ils ont une finale qui n'a pas eu lieu. Souviens-toi, c'était, je crois, Connors Villas. Ouais. Ils avaient essayé de la finir sur le court numéro 2 avec qui possédait un petit toit, mais en fait, elle avait été définitivement annulée le lundi. Donc, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver.
Ça t'est arrivé souvent, toi, dans les finales de Grand Chelem. Hein, les matchs à Wimbledon ou à New York, il y a quelques années, où tu rentrais à la finale.
Moi, j'adore les toits maintenant. J'adore les toits.
Eh oui, c'est bien.
Bravo. Il faut investir dans un toit. Voilà.
À Monaco, non, on ne va pas mettre de toit sur ce magnifique cours. Ça ne va pas la tête. Terrible. Complètement fou. À tout à l'heure, Eric, pour la suite de cette demi-finale. On rappelle qu'il aura également une deuxième demi-finale un peu plus tard entre Rune et Sinner, l'Italien, 15h21. Bon, il n'y a pas beaucoup de points dans ce Racing UBB, Julien Richard, il va falloir s'activer un peu. Hein.
Non, c'est pas terrible. 3-0. Hein, pour
les caméras sont là. Les caméras sont de retour, à peu près, a priori. Oui,
les caméras sont de retour. D'ailleurs, on a dû observer un petit temps d'arrêt sur la pelouse avant une mêlée, parce qu'il a fallu que l'officiel en charge du chrono remonte dans la tribune. Ça a pris un peu de temps et réenclenche tout le bazar. Donc, on a pris un peu de retard. On joue depuis 17 minutes hein, en première période. 3-0. Donc, il y a du vent, il y a beaucoup de vent et l'ambiance est pas super chaude, on va dire ça comme ça, dans les tribunes du Stade Bollard de Lille. C'est vrai que c'est pas le RC Lens, c'est le Racing 92, et même si les supporters ont fait le déplacement, pour l'instant ils ont du mal à s'enthousiasmer. C'est sûr aussi que sur la pelouse, Lenaïg et Christophe, on voit pas non plus de quoi trop
s'enthousiasmer pour l'instant. Ouais. C'est le retour, c'est dur hein, le retour au quotidien, le retour au top 14. Ça va monter en puissance parce qu'évidemment les matchs vont être de plus en plus à enjeu au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la fin de ce top 14. Mais là, quand tu as eu la Coupe d'Europe, quand tu as eu le tournoi, c'est difficile de revenir comme ça au championnat, hein, Lenaïg. Hein.
Oui, et puis de jouer sur plusieurs tableaux aussi à la fois. Je l'ai fait quand on joue une fois un tournoi avec l'équipe de France à 7, qu'on part sur un tournoi équipe développement, un 15 de France également aussi en club, c'est forcément une gymnastique.
Et tu perds les automatismes que tu as parce que tu joues pas avec les mêmes joueurs ou les mêmes joueuses.
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ce qui fait qu'une équipe est performante, c'est la régularité, c'est le fait de travailler ensemble et avoir ces automatismes avec les joueuses dont on a l'habitude de jouer ensemble. Donc forcément, voilà, on voit que les deux équipes sont un peu en difficulté. On voit un Cameron Wauquiez qui est très bon dans les airs comme à ses habitudes, mais aussi une belle défense des Bordelais qui viennent vraiment mettre à mal les mauls et qui les défendent très bien et qui leur permet de gagner ces ballons-là.
Ouais, et à l'instant, c'est pour la première fois une mêlée remportée par le Racing. C'était plutôt à l'avantage de l'UBB depuis le début du match. Et là, on les voit, hein, les coéquipiers se congratuler du Racing 92 et Antoine Gibert qui va prendre ce ballon pour essayer de taper le plus loin possible en touche. Lui qui est sur sa ligne des 40 et qui va taper à hauteur de la ligne des 22, très légèrement, peut-être même à l'intérieur des 22 de l'UBB, pour une munition peut-être importante, en tout cas dangereuse pour le Racing 92 qui va donc bénéficier du lancer en touche dans les 22 de l'UBB après 19 minutes. Donc 3-0 toujours pour Bordeaux sur la pelouse, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas à Lens, sur la pelouse
de Bollard, sur la pelouse du RC Lens, ouais. Où joue le Racing cet après-midi, évidemment parce que M. Lorenzetti a dû louer son stade, c'est ça?
Alors, il a été privatisé par une grande star internationale, c'est tout ce qu'on peut savoir. C'est la seule chose, il n'y a pas un concert si tu veux.
Donc ils doivent tous tourner un clip ou quelque chose comme ça,
hein. Ou répéter peut-être, pourquoi pas, une tournée mondiale en tout cas, enfin voilà. Sachez qu'il y aura une autre délocalisation, cette fois au Havre, qui là aussi n'est pas un super souvenir, parce que c'est là où le Racing avait lourdement chuté face au Leinster, et ce sera pour la réception de Toulon. Et là, cette fois, c'est le boss qui occupera les lieux, Bruce Springsteen, en concert.
Ils auraient pu délocaliser à Jambouin quand même. Il y a le stade français, je ne joue pas à Paris aujourd'hui. Ça l'a fait marrer.
Certains ont eu l'idée il y a quelques temps.
Ancienne joueuse du stade français, c'est pas imaginable ça.
Non, mais je pense que c'est une bonne chose aussi. En Bretagne, je parle de ce que je connais, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des matchs de très haut niveau, des matchs d'équipe professionnelle, et je trouve que c'est très bien justement que ces matchs aient lieu dans des territoires, dans, des terroirs rugby, qui sont un peu moins rugby.
Il y en a eu un d'ailleurs à Vannes.
Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo rugby féminin. Demain aura lieu aussi le match du Six Nations France-Écosse à Vannes. Donc voilà, ça reste une terre de rugby et une terre qui est plutôt favorable pour les Bleus parce qu'elles gagnent souvent
Les Écossaises, on va les croquer, les Écossaises, non, a priori.
Aujourd'hui,
ce sera plus compliqué la semaine prochaine.
On est favorite.
Alors, ce Red Roses là, ce sera notre paire de manches.
Ouais, on sait qu'aujourd'hui les Anglaises sont sur une belle lancée. Elles ont aussi un championnat qui est la Premiership qui leur permette de bien se préparer à ce genre d'échéance. Ça va être aussi un match sacrément intéressant à suivre parce qu'il va se jouer à Twickenham. Et à Twickenham, le stade a déjà vendu plus de 55 000 places. C'est énorme. Moi, quand je repense à mes années 2013-2017 où j'ai été jouer à Twickenham et on sentait notre écho dans le stade parce qu'il y avait 1000 personnes pour nous regarder, on voit qu'aujourd'hui, le rugby féminin est en train de prendre
une vraie ampleur en Angleterre.
Exactement. Ou 60 000 places, ça serait énorme. Et l'ambiance pour les filles, elle le mérite.
La dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande aussi avec des stades.
On bat le record de la Coupe du Monde, la finale qui était Denmark. De 40 000 places vendues. Là, on a déjà battu ce record.
C'est magnifique pour le rugby féminin. Donc demain, on en parlera. Ce sera demain après-midi. Ce match entre la France et l'Écosse. Le foot, la Ligue 2. Patrick Muller, on approche de la demi-heure de jeu à Saint-Symphorien. Toujours rien de marqué entre les deux équipes.
Non, toujours ce score nul et vierge 0-0. 27 minutes entre Metz et Bordeaux, et on va suivre cette projection balle au pied, cette progression plus exactement de Nsimbal, latéral gauche des Girondins. Il doit revenir un petit peu sur ses pas et chercher du soutien. Ascendant bordelais hein, quand même sur cette première demi-heure. Il y a eu deux situations de part et d'autre, et les situations pour les joueurs girondins ont été peut-être un petit peu plus dangereuses, mais on sent pas mal de crispation sur les épaules Messine. On sent vraiment le poids de l'enjeu de cette rencontre pour les hommes de Laszlo Bologna. On n'arrive pas vraiment à se lâcher, on a du mal à sortir, c'est compliqué vraiment les deuxièmes relances là pour essayer de progresser et de s'extirper de la ligne de défense. Et à l'inverse, les Bordelais sont bien en place. On sent une qualité technique peut-être individuelle aussi qui est supérieure. Ils sont encore en possession du ballon, ça doit faire 2 minutes de possession. Là on fait tourner à gauche, à droite, on revient à gauche parce que c'était fermé dans l'axe, et on peut peut-être armer quelque chose avec Bakua côté gauche. Il y a deux Messins face à lui, alors il va revenir, le centre de Nsimba, c'est parti, et la bonne intervention de Mathieu Hudol qui va concéder le corner. C'est un petit peu poussif côté Messin. 28 minutes de jeu, 0-0 entre Metz et Bordeaux dans ce choc du haut de tableau.
À tout à l'heure Patrick, pour la suite de ce match de Ligue 2. Je vous rappelle qu'à 19h on vous suivrait les autres rencontres de cette journée de Ligue 2, et puis un peu plus tard dans la soirée évidemment le match, le choc, le vrai choc de cette journée. Habituellement les chocs ont lieu le dimanche soir, et là ce sera samedi soir, et c'est tant mieux, entre le Paris Saint-Germain, leader du championnat de France, et le RC Lens qui est tout simplement son leader. 6 points séparent les deux équipes. On parle d'une finale du championnat en quelque sorte, même si Lens l'emporte, ils n'auront pas encore le titre dans la poche. En tout cas, c'est un match très excitant qu'on va suivre évidemment sur RMC ce soir avec Jeannot Séguier, avec Fabrice Hawkins qui est déjà là. Salut Fabrice.
Salut Christophe.
C'est une vraie finale ce match. En tout cas, c'est vrai que si Paris avait été battu à Nice la semaine dernière, ça aurait été vraiment un match choc. Là, il y a quand même 6 points d'écart entre les deux formations.
Oui, effectivement. Si Paris avait perdu, il y avait la possibilité pour Lens de les accrocher. Mais là, Paris peut quand même prendre 9 points supplémentaires par rapport à Lens. Donc, c'est vraiment un choc et surtout une vraie possibilité pour le Paris Saint-Germain de quasiment mettre ce titre dans la poche, dans un contexte très compliqué pour le Paris Saint-Germain, avec une semaine qui était très, très agitée. Lundi, ils étaient off, les joueurs du Paris Saint-Germain. Et dès mardi soir, l'affaire Christophe Galtier est venu mettre un voile sur ce club. L'entraîneur du PSG a mis les œillères pour se concentrer sur l'objectif de ce soir et cette rencontre face à Lens.
C'était difficile, très dur, bien évidemment. Je me suis réfugié dans le travail. Vous dire que ça a été agréable, non. Mais les moments que j'ai pu passer avec mes joueurs m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier tout ce qui était dit.
Voilà, Christophe Galtier, évidemment, qui avait l'air combatif hein, en conférence de presse. Christophe Galtier, qui ne sait pas trop comment il va être accueilli aussi par le Parc des Princes ce soir. Hein.
Oui, parce qu'il a été sifflé. La dernière fois que le Paris Saint-Germain joue à la maison, c'était contre Lyon. Le CUP, le collectif Ultra Paris, qui est le groupe de supporters majoritaires au Parc des Princes, a communiqué cette semaine en disant que si les faits qui étaient, si les accusations gravissimes hein, de racisme dont fait l'objet Christophe Galtier étaient avérées, évidemment qu'il fallait supprimer Christophe Galtier de l'organigramme. Évidemment, Christophe Galtier est présumé innocent, mais il y a quand même une grosse pression et lui s'attend aussi peut-être à un accueil un petit peu difficile, mais il a choisi vraiment de se concentrer sur cette rencontre, de ne parler que des joueurs, du jeu qui sera mis en place. Et puis quand on lui a demandé d'ailleurs s'il en avait discuté avec ses joueurs, il a dit que très clairement il avait fait ce choix de pas forcément en parler au groupe et de se concentrer sur le travail. Et d'ailleurs il a eu des garanties par rapport à ça, puisque d'après ce qu'il nous a dit, eh bien la séance d'entraînement a été plutôt bonne et les séances d'entraînement ont été bonnes cette semaine.
Nous l'avons préparé ensemble avec les joueurs. Tout le monde attendait ce grand rendez-vous et nous avons pu bien travailler.
Voilà, donc les séances d'entraînement plutôt probantes du côté de Christophe Galtier, même si ça n'a pas été simple. Il a fallu également remobiliser des joueurs qui ont pensé et qui ne parlaient bien que de ça, hein, malheureusement pour ce club du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui va peut-être permettre de se concentrer sur le football, parce que évidemment, on le redit, hein, en cas de succès, le titre sera quasiment acquis pour le Paris Saint-Germain.
Très bien, match à suivre ce soir, donc à 21h, très bien. Paris Saint-Germain-Lens, Fabrice sera évidemment au Parc des Princes avec Jeannot qui est en pleine forme pour nous faire vivre ce grand choc du championnat. Et puis libre antenne à partir de minuit avec Julien Cazard qui répondra à vos questions et qui fera le clown évidemment comme il sait le faire durant cette belle partie. Ce sera à partir de minuit, donc ça c'est pour les couches tard. Tu vas écouter ça, Fabrice?
Oui, je vais écouter ça tranquillement. Julien Cazard, on écoute forcément.
Merci Fabrice, à tout. Merci, à l'heure. Donc 21h pour le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Lens, match capital en vue du titre de champion de France de Ligue 1. Racing UBB, toujours pas beaucoup de points marqués. On suit le match avec Julien Richard, avec Lénaïque Corson qui est donc nouvelle membre de la Dream Team RMC. Julien, on la garde, non? Elle est pas mal, non?
Carrément, carrément.
Elle est bien, hein? Ouais, elle est bien. Carrément. De toute façon, si on ne regarde pas, elle va m'en coller une avec le petit.
Moi, je suis loin, ça va.
Ah ouais, toi, t'es tranquille, toi.
Allez, attention, parce que Maxime Lucu a la possibilité d'alourdir le score et de passer surtout une deuxième pénalité. Voilà qui est fait pour l'UBB, donc, qui mène désormais 6-0 sur la pelouse du Stade Bollaert de Lens, donc face au Racing 92. Deuxième pénalité pour Maxime Lucu. Et on était sur un.
Ça vient, un peu content.
On était sur un temps fort, hein, clairement, des joueurs bordelais convertis en points. Ils ont choisi de taper cette pénalité qui était évidemment largement dans les cordes de Maxime Lucu.
C'est laborieux cette équipe de Racing de Lens, hein, cet après-midi. Il y a beaucoup d'à peu près, des ballons tombés. Il y a pas grand-chose pour l'instant. Hein. Ils ne montrent rien.
Énormément de fautes, énormément d'arrêts de jeu. Ça casse le rythme en permanence. Mais un peu des deux côtés. Un petit peu déçu aussi côté bordelais avec cette passe qui n'a pas été dernière passe. Partir de lancement sur mêlée qui était hyper bien réalisé, mais la dernière passe entre Ducoing et Tamboué qui n'a pas été trouvée. Et je pense que ça aurait pu être une occasion d'essai toute trouvée. Voilà, faut reconstruire, faut être plus propre sur ses passes et puis surtout moins se mettre à la faute. Parce que clairement, on est en cassage de rythme.
Oui, avec un ballon volé là par l'alignement bordelais sur un lancé du Racing 92. On était à l'intérieur du camp de l'UBB sur la ligne des 40 mètres. Maxime Lucu qui va pouvoir taper à la sortie de ce regroupement très loin dans les bras de Christian White qui prend la marée là de suite. Il prend notamment Diaby, et le ballon est quand même conservé par les joueurs du Racing 92, mais qui sont donc désormais dans leur moitié terrain et qui vont donc devoir de nouveau remonter, grappiller tous ces mètres pour aller essayer de mettre en danger cette équipe de l'UBB qui mène donc 6-0 face au Racing.
À tout de suite, Julien. On repart pour Monte-Carlo où Taylor Fritz vient de sauver deux balles de 7 qui étaient en faveur du Russe Rublev, mais qui les a laissé échapper, Eric.
Ouais, mais il y en a une troisième.
Ah, il y en a une troisième. Troisième. Bon, on va la suivre alors.
5 jeux à 1 pour André Rublev dans cette deuxième manche. Il a bien réagi hein, le Russe, mais elle est sauvée encore parce que Fritz, son arme principale, c'est un extraordinaire service qu'il balance en général à plus de 200 km/h. Et ça me permet d'évoquer les petits soucis de Novak Djokovic, parce que quand il a joué contre Musetti, il servait en deuxième balle à 120-130. Donc c'est vraiment qu'il y avait un problème au coude. Et on verra d'ailleurs si Djokovic va s'aligner la semaine prochaine dans un tournoi en Bosnie à Banja Luka. Et c'est l'occasion de noter que Gaël Monfils a une wildcard là-bas. Et il jouera donc
son il va jouer. Donc oui, c'est son retour là, retour de blessure. Retour. D'accord.
Je te confirme l'information, ce sera son, et j'ai regardé, ça fait 2 ans qu'il a pas joué de tournoi sur terre battue. Et on peut pas dire qu'il ait eu de la chance au tirage, puisqu'il va jouer le tchèque Jiří Lehečka, tête de série numéro 6. Donc on va suivre de près la Monf la semaine prochaine en Bosnie. 1-7 partout, c'est officiel ici sur le central du MCCC, puisque Fritz a commis une double faute. On aura donc une troisième manche entre Rublev et l'Américain.
Eh ben tant mieux pour cette première demi-finale qui sera suivi d'une deuxième. Donc Eric Salio n'est pas prêt d'aller boire l'apéritif là-bas sur la place à Monaco. À tout à l'heure Eric, 15h35, le foot Metz-Bordeaux, 35 minutes, rien de marqué pour l'instant. Patrick, l'ambiance elle est comment à Saint-Symphorien cet après-midi?
L'ambiance est plutôt sympa, le contenu l'est un tout petit peu moins, pour être tout à fait honnête, hein. On ne peut pas dire que ce soit un match incroyable pour l'instant, même si là il y a une tentative de contre-attaque de Georges Mikotadze côté Messin, le meilleur buteur de ce championnat de France de Ligue 2 avec 15 réalisations. L'ambiance est vraiment là, pour prendre une formule consacrée, on va dire, et peut-être un petit peu cliché, la montagne accouche un petit peu d'une souris pour l'instant, hein. Il y a l'intensité bordelaise certes, mais côté Messin il y a trop de déchets dans les transmissions, dans les remontées de balles, et une certaine incapacité, voire impuissance à vraiment produire quelque chose sur le plan offensif. Et du coup les Bordelais maîtrisent pour l'instant cette rencontre, et pas de véritable occasion. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu une frappe cadrée côté Messin, alors que il y a eu des tentatives bordelaises, notamment par l'intermédiaire de Mwanga, et une tête de Barbé tout à l'heure au quart d'heure de jeu, une tête qui est passée au-dessus. Mais clairement le deuxième du championnat, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux, qui maîtrisent cette première période, puisqu'il reste moins maintenant de 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 toujours entre Metz et les Girondins de Bordeaux.
Bon, il va falloir que ça s'active aussi de ce côté-là. 0-0 entre Metz et Bordeaux, 6-0 pour l'UBB sur la pelouse du Racing, et donc un 7 partout entre Rublev et Fritz en demi-finale à Monte-Carlo. Il est 15h37, on revient dans un instant pour la suite et la fin des premières mi-temps, notamment de match de rugby de foot, avec peut-être un 3 points supplémentaires pour l'UBB, Julien.
Oui, 3ème pénalité Maxime Lucu, et 3ème pénalité réussie pour le demi de mêlée de Bordelais. 9-0, elle était très excentrée, hein, celle-là, coup de pied ultra précis pour le joueur bordelais de l'équipe de France.
9-0, il doit avoir des stats qui ressemblent étrangement à celles de Ramos, hein, Lénaïg Lucu, hein, parce que franchement c'est un métronome face au bar adverse, hein.
Ouais, on le sait, il est très bon, et peut-être aussi de ne pas avoir joué autant qu'il aurait voulu durant le 6 Nations. Ouais. Fait qu'aujourd'hui il se sent frais et dispo pour
son équipe. C'est dur d'être la doublure d'une légende quand même, hein.
Ouais, d'avoir un capitaine et un joueur aussi extraordinaire qu'est Dupont, c'est vrai que ça doit pas être facile d'être derrière. Par contre, on sent vraiment qu'il y a un engagement de tous les joueurs, hein, même s'ils sont remplaçants, finisseurs. Finisher. Ouais, on le fait en français.
Oui, parce que madame est anglaise, mais elle parle français maintenant.
Je le fais à la Chabal. Non, mais c'est vrai qu'on a, on a aujourd'hui une équipe de France qui est belle, que ça soit du 1 au 23, et même ceux qui sont hors groupe, même ceux qui ne sont pas appelés régulièrement dans le groupe, on sait qu'on peut compter sur eux, comme l'avait été la tournée d'été en Australie, où justement Nolan Le Garec avait fait sa première sélection avec l'équipe de France, et il ne nous avait pas déçus.
Exactement. Allez, il est 15h38, on revient dans un instant pour la suite de tous ces matchs.
C'est Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h40 sur RMC, le foot, le rugby, le tennis au programme de ce milieu d'après-midi sur RMC. Le rugby, c'est le retour du top 14 avec cette 22e journée. Le premier match oppose le Racing à l'Union Bordeaux-Bègles. Ça se passe non pas à Nanterre, mais à Lens. Allez comprendre, ben oui, c'est comme ça. faut louer le stade à des stars du show business. C'est Julien Richard qui nous a dit ça tout à l'heure. Le Racing qui n'aime pas les voyages, hein, qui n'aime pas les délocalisations, pardon, on va y arriver. Ça ne leur réussit pas trop, hein, Julien.
Ah oui, on se souvient de la demi-finale perdue contre La Rochelle. Ici même, à Lens, on se souvient du déplacement cette saison au Havre face au Leinster en Coupe d'Europe où là pareil ils avaient pris la marée. Là ils sont menés 9-0, 3 à coup de pied de Maxime Lucu et ils vont bénéficier là d'une touche dans les 22 mètres de l'UBB, les joueurs du Racing 92. Je vous raconterai ça à la fin de cette action peut-être, mais il y a une réorganisation dans les rangs de l'UBB suite à la blessure de Zach Holmes, l'ouvreur australien. Attention avec le ballon qui sort là avec Francis Saïli, la redoublée Gibert, la longue passe sautée avec maintenant Abosi sur son aile. Est-ce qu'il va réussir à passer le bon retour, la bonne défense? On est de l'autre côté désormais du terrain, toujours dans les 22 mètres de l'UBB et le Fidjien qui a été plaqué. Ouais, est-ce qu'il va réussir à sortir son ballon? Il y a un avantage en cours et il va même revenir à une pénalité, l'arbitre de cette rencontre, Vivien Pradery. Je vous le disais, sortie de Zach Holmes sur blessure. Du coup, Maxime Lucu a glissé à l'ouverture et eh bien le retour de Yann Lesgourg à la mêlée. Yann Lesgourg,
souvenez-vous. Julien, je te coupe, il y a un coup franc très intéressant pour Metz, Patrick.
Exactement, 42e minute, 0-0 toujours entre Metz et Bordeaux, et un coup franc consécutif à un tournant peut-être dans cette rencontre, c'est le carton rouge pour Gaëtan Poussin, le gardien de Bordeaux. Ce coup franc, on va le suivre dans un premier temps avec Georges Mikotadze qui s'élance, ça passe au-dessus, début du nouvel entrant, en l'occurrence Trazek, le gardien remplaçant. Ça a été contré hein, au passage, ce sera un corner donc pour les Messins. En deux mots, Christophe, ballon de contre pour le FC Metz avec une superbe passe vraiment de Ablaye Diallo qui lance dans la profondeur Georges Mikotadze, l'attaquant Messin, et Gaëtan Poussin vient à sa rencontre, lui met un petit tampon hein, faut le dire comme ça, faut le dire comme cela s'est passé en dehors de la surface de réparation. Donc carton rouge sorti par l'arbitre de cette rencontre, monsieur Angoula, et donc les Bordelais qui vont terminer cette rencontre à 10 avec Strazek, le portier remplaçant qui a remplacé Pitou, l'attaquant roumain de cette équipe de Bordeaux. 0-0 entre les deux équipes, toujours à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire de cette première période.
Merci Patrick. Et pendant ce temps-là, le Racing réduit l'écart face à l'UBB, Julien.
Antoine Gibert qui met les 3 premiers points de son équipe pour le Racing 92, donc à 3 minutes maintenant de la fin de cette première période. Le score désormais 9 pour l'UBB, 3 pour le Racing 92, et on aperçoit Laurent Travers là qui est sur une chaise au bord du terrain et qui a l'air tendu quand même. Et je voudrais pour terminer donc la réorganisation contre les Bordelais, la rentrée de Yann Lesgourg qui, souvenez-vous, il y a 4 mois et 12 jours avait été victime d'un gros accident de scooter et après un match à Bordeaux, et qui avait eu notamment des fractures, plusieurs fractures à la mâchoire, un souci à l'épaule aussi. Et bien il est de retour et il rentre peut-être plus tôt que prévu avec la blessure donc de Zach Holmes. 9-3 le score pour l'UBB.
9-3, rien n'est fait évidemment les Naïcs dans ce match. On attend que le match débute en quelque sorte.
Oui, j'espère que ça ne va pas se jouer que avec des coups de pied de pénalité, parce que ça essai, va être long quand même.
Mal, un petit essai,
un petit
même,
essai hein. Ça serait pas mal.
Ouais.
Non, on sent que voilà, on a du mal dans les passes, dans les transmissions qui sont pas assez propres, que ça manque aussi un peu de créativité, je pense, dans les attaques de ligne. Donc bon, voilà, on espère avoir un peu plus de choses à se mettre sous la dent en deuxième période.
T'es pas gâté hein, pour ta première. C'est pas le match le plus emballant de l'histoire.
Pourtant, je me suis dit un match.
Pourtant, elle a bossé, elle a fait des fiches incroyables
pour aller gagner la place dans le top 6. On se dit.
Bah oui.
C'est un match en jeu. C'est peut-être ça aussi. Il y a énormément d'enjeux entre ces deux gros prétendants.
On sent la crispation sur les visages, notamment de Lucu ou bien même de Logarec. On sent que voilà, les joueurs sont pas forcément sereins et ça se ressent dans le jeu qui est un petit peu c'est un peu le bazar.
Allez, attention parce qu'il y a un gros temps fort peut-être pour les Bordelais. On est dans les 22 du Racing 92 et il y a un avantage en cours hein, toujours pour l'UBB. On est quasiment face au poteau et très légèrement à l'intérieur des 22, et d'ailleurs l'arbitre va revenir à la faute. Est-ce que ce sera une pénalité et l'occasion pour Maxime Lucu d'ajouter 3 points? On va voir, il convoque notamment, il appelle, il me semble, Yannick Tarik, le le talonneur du Racing 92 avec Gaël Ficou le capitaine. Il y a Mamadou Diaby le capitaine bordelais également qui vient. Il va peut-être donner une pénalité me semble-t-il en faveur des bordelais et on va voir ce que va choisir Maxime Lucu qui pose le ballon au sol et qui va choisir de taper et d'aller chercher les 3 points. On va être à moins de 30 secondes après cette pénalité, ce sera certainement terminé pour la première période. 9-3 le score pour l'UBB et Maxime Lucu qui aura donc la possibilité de rajouter 3 points avant de regagner le vestiaire, les vestiaires de ce stade Bollaert ici à Lens. Et ce serait, on va dire, logique en tout cas que ça se joue sur des coups de pied parce qu'on n'a pas vu grand chose, on le dit, on le répète. Et peut-être une équipe bordelaise un peu plus à l'attaque, un peu plus de conviction, un peu plus précise aussi, peut-être dans cette première mi-temps. La concentration donc pour Maxime Lucu, il est à 3 sur 3 pour l'instant dans cette première période sur ses tentatives au coup de pied. Vous entendez la grosse sonnerie de Bollaert et après ce coup de pied ce sera donc le retour au vestiaire et la mi-temps. Allez, Maxime Lucu, le ballon qui s'élève, qui prend la direction des poteaux, métronome Maxime Lucu sans souci, qui rajoute ses 3 points supplémentaires, 12 pour l'UBB, 3 pour le Racing à la mi-temps.
Merci Julien, voilà une affaire rondement menée pour les Girondins, les Naïs qui quand même repartent au vestiaire avec 9 points d'avance. Bon, ça sera peut-être pas suffisant, mais c'est déjà pas mal, hein.
Oui, je reprends les propos. C'est vrai qu'on retrouve une équipe de l'IBB un petit peu plus dominatrice déjà dans les contacts. On sent qu'ils ont envie de gagner cette ligne d'avantage. Et puis aussi plus précis peut-être dans les transmissions plutôt que cette attaque du Racing qui a du mal à se mettre en place jusque-là.
Très bien, vous avez été parfaite ma chère pour cette première mi-temps.
Bien accompagnée par toi.
Enfin voilà, dans la deuxième mi-temps tu seras avec Flora. On va voir ce que ça donne, je vous écouterai. On fait un tour à Metz parce que là aussi c'est la mi-temps, c'est bien synchronisé tout ça, Patrick.
Exactement, 0-0 à la pause entre Metz et Bordeaux et on sent que clairement ce fait de jeu, ce fait de match va sans doute tout changer dans cette rencontre. Je parle bien évidemment de ce carton rouge sorti par Monsieur Angoula à l'encontre de Gaëtan Poussin pour sa sortie hors de sa surface et cette hanche qui est allée se planter dans le corps de Georges Mikotadze. Et suite à cela, il y a eu deux grosses situations pour le FC Metz avec cette frappe de Sabali qui a un petit peu trop ouvert son pied et puis cette frappe trop croisée de Kofi Kouaou. Il y a eu vraiment réaction directe des Messins suite à cela et cet avantage numérique qui va les accompagner encore sur cette deuxième période. 11 Messins contre 10 Bordelais, 0-0 à la pause et cette deuxième période pourrait être un peu plus alléchante, mon cher Christophe. Dur à dire, hein.
Voilà. Merci Patrick, à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. 0-0 donc à la pause entre Metz et Bordeaux. Là aussi on vous le dit, match capital en vue de l'accession à la Ligue 1. Le tennis, on en est où Eric Salio? Troisième manche, c'est ça?
Troisième manche, oui. Avec un break d'avance pour Taylor Fritz qui mène 2-1 donc dans cette dernière manche sous un ciel vraiment très couvert. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas de goutte de pluie, ça. Mais ces conditions de jeu très lentes et paradoxalement, eh bien Fritz se régale. Il a le temps de se placer, de balancer ses énormes coups de fond de court. C'est un garçon qui a déjà gagné un Masters 1000 l'an passé à Indian Wells. C'est un garçon qui est prêt à supporter la douleur puisque il avait battu Rafa Nadal en finale alors qu'il avait la cheville, dans un sale état. Mais comme en face Nadal lui avait un problème aux côtes, ça fait donner une drôle de finale. Et Fritz, qui pourtant devait pas aller sur le court, ses coachs lui avaient dit n'y va pas, il était allé, il avait remporté ce titre. Donc peut-être qu'il va disputer une nouvelle finale de Masters 1000. 2-1, Fritz au troisième et quelques gouttes de pluie. Aïe, ah, j'aime pas ça.
Bon, tu vas pas pouvoir aller à la terrasse pour l'apéro. C'est râpé. Merci Eric, à tout à l'heure pour la suite de ce match. Il est 15h50 sur RMC. Dans un instant, on va retrouver Florent Moussy qui est là, qui prend le relais.
Si tu veux, je suis là. Tu veux rester encore un petit peu?
Ah, mais moi je suis bien avec les Naïcs, on était bien.
Bah, je me doute si tu peux. Moi je peux te laisser la prochaine heure si tu veux, puis je reviens tranquille à 17h. Il y a un très beau programme qui nous attend. La Ligue 1 à 17h, puisqu'on en parle, ce sera Rennes face à Reims. On sera avec Kevin Diaz pour l'avant-match tout à l'heure. Et puis évidemment, le multiplex top 14. Voilà ce qui vous attend dans quelques instants dans l'Intégral Sport sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.